travailleurs. Pour une militante syndicaliste, bon, voilà, elle faisait une différence, Lucie Parson.
Bon, Jean-Manuel du Proton Srebif nous signale qu'il se rebiffe.
Et elle meurt, alors pour terminer, elle meurt dans un incendie.
Ouais.
Voilà, il y a des incendies beaucoup aux États-Unis.
Hein.
Bah,
c'est vrai que justement, c'est ce que...
Ça brûle bien.
On a évoqué l'incendie de Chicago en 1871. Mmh. C'est vrai que les constructions, c'est en bois, ils sont les unes sur les autres. Donc forcément, t'as un problème, t'as tout qui s'embrase. C'est surtout les quartiers pauvres hein, en général qui brûlent. Mais ça a permis justement pour Chicago, justement cet incendie, ce grand incendie là, ça a permis après de pouvoir reconstruire en bien, en beau, en plus haut. Ça a été une des premières villes modernes, quoi, en fait.
Avec des buildings.
Ouais. Avec des buildings, peut-être pas, les buildings de l'époque.
Enfin,
ça leur a permis de...
Les quartiers populaires restent des quartiers populaires, ceci dit, avec des maisons qui sont pas... Qui sont pas des buildings, forcément.
Non, c'était pas des buildings, mais ils ont fait des constructions plus hautes, toujours avec une vie de merde, sans doute. Mais c'était plus esthétique, tu vois, moins le bordel, tu vois, c'est pas, ça ressemblait moins à bidonville sans doute. Enfin, ils ont profité de cet incendie pour faire des villes modèles. Bon, bref, on va se quitter là-dessus. Merci Hélène d'être venue. On a traité que de deux tiers de ce qu'on avait prévu. Mais bon, c'est pas évident.
C'était prévisible.
C'était prévisible.
La richesse du sujet.
Ouais. Et puis. On rappelle que tu fais une émission tous les mercredis.
Tous les mercredis, de 18h30 à 20h30. Et ce mercredi-là, on a un opus poétique, puisqu'on a une amie qui nous présente des poèmes. Après, on a une chanteuse. Alors, la chanteuse, c'est Karine Achard, chanteuse féministe. Et pour terminer, on a... Colline Grandot pour le ballet libéré, une grève de femmes à l'université de Louvain-la-Neuve en 1975 qui avait viré le patron, 100 femmes qui pendant 14 ans ont géré en autogestion l'entretien de l'université.
Continuer d'entendre parler des femmes qui luttent, et ben voilà, vous écoutez sur Radio Liberté à 89.4 MHz, l'émission Femmes Libres, mercredi. Et nous, on se retrouve le 15 janvier, si tout va bien. Si tout va bien.
Et ciao.
Et bisous, salut.
Bonsoir.
Vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
n'avait réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui ont survécu. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, année rivale. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Je dis de vivre et d'avoir un enfant. Quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur dans le temps. C'était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères. Pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient à la France en s'abattant.
Pardon à Léo Ferré, puisque nous allons prendre la parole. Et je vais la céder, vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Nestor Potkin qui tient le micro ce soir. À toi Nestor.
Merci Nicolas, qui tient la technique ce soir. Donc, désolé pour le petit retard à l'allumage. Ce soir, nous allons parler... d'un groupe religieux dans le Protons Robif, un groupe religieux bizarroïde. Vous me direz, par définition, tous les groupes religieux sont bizarroïdes, j'en suis bien d'accord, mais celui-ci est quand même un petit peu spécial. Il s'agit en effet des Mormons. Les Mormons, alors vous savez que les Mormons, c'est une secte américaine. C'est une secte américaine qui a eu des débuts d'abord... très bizarroïde à nouveau, puis ensuite très difficile, et qui est devenue l'une des sectes les plus riches et les plus puissantes du monde, puisqu'elle domine quasiment entièrement tout un État américain, l'Utah. Elle domine la capitale de cet État, le Salt Lake City, et l'un de ses membres, Mitt Romney, avait été un candidat à la présidentielle, et il avait été relativement proche, à un certain moment, de la victoire. Et mon cher Nicolas, je pense qu'il y a un écho quelque part, puisque j'entends ma propre voix dans un haut-parleur du studio, ou quelque part dans le studio. Donc j'espère que vous vous entendez toujours bien. Alors, la manière dont je vais en parler va être un petit peu surprenante, parce que il se trouve que j'ai trouvé, sur les étagères de ce café coopératif qui s'appelle la Commune rue d'Aligre. Il y a des étagères où on peut mettre des livres et en prendre, et puis j'ai trouvé un livre de monsieur Hippolyte Taine, T-A-I-N-E. Alors ça va probablement dire quelque chose aux plus lettrés des auditrices et des auditeurs. Taine, ça serait étonnant qu'il y ait beaucoup de gens parmi nous qui l'aient encore lu. On sait vaguement que c'était un écrivain, un penseur, vu comme important au XIXe siècle, et plutôt oublié, négligé de nos jours. On a un peu tort de le négliger parce qu'il écrit remarquablement bien. Alors, ces analyses en particulier, pas mal de ces analyses historiques, quand elles concernent la France, sont malheureusement teintées par ces opinions politiques qui étaient, à l'époque, vaguement centristes, ce qui évidemment pour nous va signifier très réac aujourd'hui. Mais ça n'est donc pas un élément français dont je vais parler. Je ne recommande pas de lire ces livres sur la Révolution française. Il vaut beaucoup mieux lire le merveilleux livre de Kropotkin, La Grande Révolution. Je vais lire la très longue critique qu'il va faire d'un livre appelé « Voyage au pays des Mormons » par M. Jules Rémy. Et il va donc synthétiser l'histoire des Mormons dans son article du Journal des débats. Et la raison pour laquelle je vais consacrer la majeure partie de cette émission à la lecture directe de ce texte, c'est que c'est un texte merveilleusement bien écrit. Alors cela dit, il y a quand même devant moi, à l'autre bout, dans la régie du studio, il y a Nicolas, qui a reçu des instructions fermes de m'interrompre quand il veut, de poser les questions qu'il veut. Et le cas échéant, si vous avez des questions à poser, je ne sais pas comment très bien on va pouvoir se débrouiller, si vous appelez le studio au 01 43 71 89 40, mais comme on n'est que tous les deux, il n'est pas dit qu'on puisse répondre. Toujours est-il que je propose de commencer la lecture de cet article de M. Hippolyte Ten sur un livre sur les Mormons. M. Jules Rémy, auteur de ce livre, était en Californie en 1855, étudiant les pierres et les plantes, quand il s'avisa que les Mormons étaient à sa portée. Une société et une religion nouvelles valent bien une couche de calcaire coquillé ou une légumineuse rare. M. Rémy partit avec un Anglais de ses amis, M. Branchley, afin de les visiter. Oh, pour des voyageurs, l'entreprise était ordinaire. Il n'y avait que 400 lieues de désert à traverser. Je rappelle que la lieue vaut 4 kilomètres. Monsieur Rémy fut mordu par des serpents, faillit mourir de la fièvre, fut presque assassiné par des blancs, resta seul 3 jours sans provisions ni ressources, s'égara, reçut des sauvages une volée de flèches et de balles, marcha 8 semaines, dépensa 40 000 francs. À la fin, il arriva au grand lac Salé dans la Cité Sainte, donc celle qu'on appelle maintenant Salt Lake City. Y demeura 1 mois, vécut avec les Mormons, put observer leurs mœurs, leur constitution, leur culte, et rassembler les matériaux de leur histoire. C'est l'abrégé de ces recherches que l'on va présenter ici. Donc maintenant, voici effectivement le résumé du livre de M. Jules Rémy. Joseph Smith, fondateur de la secte, naquit en 1805 dans l'état de Vermont à Sharon, comté de Windsor. Il paraît avoir été en partie visionnaire, en partie fourbe, mais surtout fourbe. Son père se convertit en 1811 et eut jusqu'à 7 visions. Sa mère était toute mystique, se crut miraculeusement guérie d'une maladie mortelle, interprétait la Bible à sa guise, avait des apparitions, et en même temps disait que toutes les religions faisaient fausse route. En voilà bien assez pour tourner la tête d'un enfant vers les rêveries. D'ailleurs, Joseph n'était guère instruit, ni capable d'idées justes. Il apprit à lire, à écrire médiocrement, à faire tant bien que mal les 4 opérations de l'arithmétique. Ce fut là tout ce qu'on lui enseigna. Il travaillait de ses mains, se louait à la journée, et avait épousé la fille d'un restaurateur. Le cerveau fermente aisément quand, avec une telle éducation et dans un tel emploi, on se trouve face à face avec sa Bible, et qu'on a d'autres ressources pour l'interpréter que le grossier bavardage des journaux, les criailleries des sectes discordantes et les inspirations d'une tête mal faite. Joignez à cela l'état des esprits en Amérique. Les savants et les lettrés n'y font pas la loi comme ici. Ils forment une petite société d'amateurs et de dilettanti, isolés, occupés à causer entre eux et avec l'Europe, mais sans autorité sur les croyances publiques. L'Américain est indépendant. Un charpentier se croit aussi sage, aussi capable de décider qu'un historien, un critique, un philosophe ou un théologien de profession. Partant, la carrière est ouverte aux inventions religieuses. On a compté 150 sectes dans la seule ville de New York et on ne les a pas toutes comptées. Alors, petite interruption là de moi-même Nestor, de nos jours, aux États-Unis, il y a à peu près 20 000 différentes églises protestantes. J'ai bien différentes, hein, je ne parle pas de l'église, le bâtiment, je parle de l'institution, 20 000 églises protestantes différentes. Il y a dans la race un fond de folie mystique, des commerçants, des planteurs, des hommes d'affaires les plus positifs du monde, les plus versés dans l'art de faire fructifier le dollar, font les assemblées appelées « shoutings », où ils prêchent, prient, pleurent, sentent l'attouchement de l'esprit, confessent leurs péchés publiquement et à grands cris. Un des événements qui remua le plus profondément Joseph Smith fut un « revival » tenu dans le village de Manchester quand il avait 15 ans. Il y vit toutes les sectes du voisinage se réunir, faire des prédications, discuter et s'exalter. Ces revivals, où l'on vient de fort loin, sont des méthodes d'échauffement qui provoquent souvent des extases, toujours de l'enthousiasme, et parfois des maladies mentales. Joseph en sortit plein d'angoisse, obsédé du besoin d'une religion, ne sachant laquelle choisir, et peu de temps après, s'étant retiré dans un petit bois, il eut une vision. Trois ans après, il en eut une autre, et les révélations commencèrent. Elles se multiplièrent. Elle finit, si on l'en croit, par en avoir presque tous les jours et sur tous les événements graves. Il nous est difficile de nous dégager de nos habitudes critiques et sceptiques pour comprendre ce qui se passe dans ces têtes bizarres. Il est probable pourtant qu'il tomba à peu près dans le même état que Mahomet. Il était ignorant, obstiné, imaginatif. Il fut possédé d'une grande idée. À force de la répéter aux autres, il se persuada lui-même et ne distingua plus le mensonge de la vérité. Un acteur peut s'enivrer de son rôle et verser de vraies larmes. À regarder sa vie et sa mort, on est disposé à penser qu'il devint enfin sa propre dupe et crut la fable qu'il avait fabriquée. Les marques de la fabrique n'en sont pas moins visibles. Rarement charlatanisme fut plus grossier. On suit encore mieux ici que dans le Coran toutes les traces de l'imposture. En 1827, un ange lui apprit que l'évangile éternel était écrit sur des plaques d'or cachées dans la colline du Kumara avec une paire de lunettes en diamant au moyen desquelles on pouvait les lire et les traduire. Joseph y alla, les vit. 4 ans plus tard, l'ange lui permit de les emporter. Mais en 1838, le même ange eut soin de les reprendre pour empêcher les profanes de les vérifier. Joseph copia les caractères des plaques. Ce sont tout simplement des caractères de fantaisie, plus ou moins bien imités du calendrier mexicain. Il se mit ensuite à les traduire. Son secrétaire lui ayant volé les 100 premières pages de la traduction, une révélation prudente vint aussitôt lui défendre de les refaire pour empêcher les profanes de comparer les deux copies et d'y trouver des différences. La traduction achevée, Joseph emmena 3 de ses amis dans un bois où un ange leur apparut, déclarant que les plaques venaient de Dieu et que la version était exacte. Sur quoi ils signèrent un certificat, et 8 autres témoins un peu plus tard firent une seconde attestation. Le prophète prenait ses précautions d'avance comme un dentiste ou un juge de paix. Enfin, le livre parut après qu'une révélation eut ordonné à un disciple, sous peine de damnation, de vendre tous ses biens pour payer les frais d'impression.
I even touched the sky above the fall. falling rain. I feel so good in my neighborhood, so here I come again. I got to have Kaya now.
Kaya, Kaya.
Got to have Kaya now.
Kaya, Kaya.
I got to have Kaya now.
Kaya, Kaya.
For the rain is falling. I even touch the sky above the falling rain. Yeah. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. For the rain is falling. Get up and turn I loose. Wake up and turn I loose. Wake up and turn I loose. For the rain is falling.
C'était bien sûr Bob Marley, Kaya. Nestor, c'est à toi.
Merci Nicolas. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est toujours le Proton se rebiffe. Et ce soir, je vous lis le texte d'Hippolyte Taine qui nous raconte l'histoire de cette secte bizarre mais puissante et très riche, les Mormons. Et Hippolyte Taine vient donc déjà de nous montrer l'histoire officielle de ce qui est aujourd'hui appelé le Livre de Mormon. Donc je reprends ce qu'il nous dit. Ce malheureux livre est une histoire fantastique. Il n'y a guère de compilation plus plate, plus farcie de miracles vulgaires, plus tachée de contradictions, de niaiseries, d'anachronismes et de fautes de grammaire. Alors là, je reprends la parole. J'ai essayé moi-même de lire le Livre de Mormon il y a fort longtemps. Je dois confesser que je n'ai pas pu résister au bout de 10 pages. Je l'ai refermé. C'est un très, 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 très mauvais pastiche de la Bible. C'est tout à fait évident. Mais il y a encore pire, et c'est ce que nous révèle Hippolyte Taine. Et ce qu'il y a de pire, c'est que l'ouvrage n'est pas même original. Les noms, les événements sont empruntés à une fiction restée manuscrite, mais lue de beaucoup de personnes, et où Salomon Spaulding, vers 1809, avait raconté pour se divertir la légende de l'ancienne Amérique colonisée par les 10 tribus d'Israël. En sorte que le livre de la vérité nouvelle est la contrefaçon d'un vieux roman. Une multitude de révélations vinrent le commenter et le compléter. Les disciples y ajoutèrent, et l'un d'eux, Orson Pratt, mit la chose en système. Ces folies ressemblent fort à celles qui ont entouré le christianisme à son berceau, particulièrement aux imaginations des gnostiques. Les peuples alors s'étaient mêlés, les cultes s'étaient heurtés, chacun cherchait ou se faisait une foi. Le rêve avait pris l'empire. Dans cette poussière de philosophies et de religions brisées, les gens grossiers ou subtils, charlatans ou visionnaires, ramassaient et amalgamaient des dogmes ascétiques ou sensuels. Et l'on vit naître des centaines de sectes, comme d'un grand animal mort naissent des milliers de vers. Il est aisé de voir que le mormonisme, et d'une secte de ce genre. C'est un pêle-mêle d'idées courantes, collées l'une sur l'autre par des esprits incultes et de mauvais aloi. Vous avez reconnu dans cet amas des réminiscences de la Bible, des aspirations humanitaires, le matérialisme du XVIIIe siècle, des traces du panthéisme allemand, un fond de socialisme, le voisinage de la doctrine spirit, les espérances de l'industrie moderne. Bref, toutes les banalités emphatiques, toutes les indications superficielles, toutes les importations saugrenues qui traînent dans les colonnes d'un journal américain. Cette doctrine est une religion de cordonniers ou de maçons élevés dans la Bible et tenue par la Gazette à la hauteur de l'esprit moderne. Dieu leur devient plus sensible ayant un corps. Ils entendent mieux la création à présent qu'elle est supprimée et que le Père Céleste n'est qu'un directeur d'usine qui, avec l'aide de ses contremaîtres, organise le monde. Le Saint-Esprit, transformé en fluide, devient palpable et ils le sentent physiquement dans leurs attaques de nerfs. De plus, il est fort agréable de croire qu'on est saint, choisi par Dieu, qu'on règnera 1000 ans sur la terre, qu'on aura les gentils pour domestiques, qu'on finira par avoir un corps éternel avec beaucoup de femmes et toutes sortes de plaisirs. Ajoutez que l'instruction se réduit chez les Mormons aux premiers éléments, que la science y est négligée, méprisée ou suspecte. On y admire et on y pratique que le travail des mains. Ce chaos et cette grossièreté eussent fait échouer la doctrine en France. Ils l'ont fait réussir aux États-Unis. Voilà la doctrine que Joseph Smith se mit à prêcher. Et dans quel style ? Un mélange de platitude et d'emphase. Nulle suite dans les idées, des métaphores usées, décousues, comme ces vieux habits qu'on exporte des capitales civilisées jusque vers l'Océanie. Des plaisanteries basses et baroques. Une pensée qui s'affaisse sous son propre poids, s'embarrasse de périodes interminables et trébuche sous les oripeaux dont elle veut s'affubler. Partout, dans l'expression comme dans le dogme, on retrouve le cordonnier fanatique qui veut passer pour lettré. Il commença par convertir ses frères, son père et sa mère. Avec 5 fidèles, il institua son église le 6 avril 1830. Le même mois, il fit un miracle, ayant chassé le démon du corps d'un possédé. Le 1er juin 1830, 30 croyants étaient rassemblés. Plusieurs tombèrent en extase, prophétisèrent, virent les cieux ouverts. Les conversions devinrent nombreuses. Et des disciples furent envoyés de toutes parts pour prêcher le nouvel évangile aux infidèles. L'année suivante, Joseph, pour mieux propager sa doctrine, fonda un journal et publia le Livre des Révélations. Il traduisait à sa façon le Nouveau Testament, choisissait dans le comté de Jackson l'emplacement de la future Sion, instituait l'ordre de Melchisédek, prescrivait la construction d'un temple. Le 22 janvier 1833, le don des langues se manifesta pour la première fois parmi les saints. Ils passèrent une partie de la nuit à s'entretenir dans des idiomes qu'ils n'avaient jamais su. Il faut savoir que ce don est divisé en deux parties. Les uns parlent des langues sans les entendre, et les autres entendent les langues sans les parler. Alors, à nouveau une interruption de ma part, de mon cru, Nestor. J'ai vu, on peut trouver probablement facilement, j'imagine, sur YouTube, etc., des vidéos de chrétiens américains qui, comme on dit en anglais, « speak in tongues », qui parlent en langue. Et donc, ils sont censés avoir l'Esprit Saint qui leur arrive dans le crâne, et ils parlent des langues inconnues. Alors, quand vous écoutez ces vidéos, vous vous rendez compte que c'est évidemment, là aussi, c'est la construction d'un cerveau pas très rusé qui essaie de dire des choses dans charabia. Et donc, on entend « Abababa gala gala ma la kababababa ma zaka la papa foukili babababa lana zaka la baba fa fa ma peka papa ». Et ça, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et vous avez, évidemment, comme ce sont des vidéos, excusez du préjugé, ça n'est hélas pas un préjugé, vous avez donc des vidéos de citoyens états-uniens et états-uniennes légèrement en surpoids, même très souvent en très 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 grand surpoids, vêtus, ma foi, sérieusement, du moins autant aussi sérieusement qu'on peut le faire aux États-Unis, et qui sont là à s'interpeller les uns les autres en charabia de bébé. C'est assez savoureux. Alors, on revient maintenant au texte d'Hippolyte Taine sur les Mormons. En même temps, les révélations pleuvaient, et fort à propos, en toutes circonstances et sur tout objet. Il achetait des papyrus égyptiens, les traduisait et y trouvait des écrits authentiques d'Abraham et de Joseph. Ses disciples étaient si dévoués qu'en 1837, il put achever le temple de Kirtland et en faire la dédicace. Ce temple avait coûté 40 000 $ et donc ce jour-là, Moïse, Élie et Élisée lui apparurent en personne et lui remirent les clés du sacerdoce. Plusieurs disciples virent aussi les anges qui, pendant la cérémonie, venaient s'asseoir auprès d'eux. Une colonne de feu apparut au-dessus du temple et des bruits surnaturels furent entendus. Joseph Smith soutenait la nouvelle religion par des talents d'organisateur et d'homme d'affaires. Il en avait établi le siège à Nauvoo en 1839, et Nauvoo, qui alors se composait de 6 cabanes, renfermait un an après 250 maisons de Mormons. L'esprit pratique et l'activité des Américains font ces merveilles. Joseph obtint du gouvernement de l'Illinois une charte d'incorporation et des privilèges qui faisaient de Nauvoo une ville libre. Il institua sa hiérarchie, établit une milice, fonda une société agricole et industrielle, régla les mœurs, présida aux cérémonies, rendit même la justice et agit aux applaudissements de tous les siens en véritable chef d'État. Les hommes de ce pays naissent administrateurs comme nous naissons soldats. En 1844, il prêcha devant 20 000 personnes. Il osa même prétendre à la suprême magistrature des États-Unis, envoya 244 missionnaires dans les différentes parties de l'Union pour prêcher sa candidature et publia un programme de réforme qui, par le vague de ses promesses, par la singularité de ses citations chaldéennes, par le ronflement de ses tirades patriotiques, était propre à séduire les pauvres diables et les imbéciles qui sont la majorité du genre humain. La persécution, pourtant, l'avait porté à cette hauteur. Le fanatisme est comme le caillou. Plus on le frappe, plus il pétille. Dès 1832, Joseph avait été battu, roulé dans le goudron et enduit de plumes, plaisanterie américaine dont le peuple là-bas use envers ceux qui lui déplaisent. L'année suivante, les Mormons du Missouri furent attaqués par leurs voisins. Ils résistèrent à main armée, puis sur l'invitation du lieutenant-gouverneur, ils déposèrent leurs armes. La populace en profita le lendemain pour tomber sur eux. On les cravacha, on tira sur eux, on les chassa comme du gibier. C'était en novembre, il faisait une pluie battante. Les malheureux traversèrent le Missouri sur un bac et passèrent la nuit en plein air. 10 de leurs maisons furent détruites. Alors, après, le texte continue à propos des persécutions que vont subir les Mormons, et il est de fait que ça va être extrêmement violent. Toujours quelques extraits. 38 fois, Joseph avait été traduit devant les tribunaux, et toujours on l'avait relâché, faute de preuves, par exemple. Ce qui va arriver, c'est qu'il est en prison. Le 26 juin 1844, une centaine d'hommes déguisés et armés assaillirent les portes de sa prison. Les gardes, qui étaient convenus de se laisser forcer, tirèrent sans blesser personne. Les émeutiers entrèrent, tuèrent Hiram Smith. Joseph Smith déchargea sur eux son revolver et essayait d'enjamber la fenêtre quand il fut atteint de 2 balles. Il tomba de 20 pieds en s'écriant « Oh Seigneur, mon Dieu !» Un des meurtriers traîna son corps et l'appuya contre la margelle d'un puits. Le colonel Williams ordonna alors à 4 hommes de faire feu sur lui à 8 pieds de distance. Il s'est fait ça, il était mort. Tel est le profit de ces sortes d'actions. On y gagne pour soi le nom d'assassin et pour son ennemi, le nom de martyr.
Sometimes I think my co-worker crazy. Do you, Christine, would I go and jokey-jokey? Then the next time now, I know nonsense dance. The way she wind up the place, last Christmas dance. The way she love to talk about conspiracy. Me and Christine in the canteen, I talk about the death of black people in a custody. How not a cat make me young or a damn dog bark? How nobody high up in a society can offer explanation nor remedy? When Christine it up her brow like say a row, she a go row. Screw up her face like say a trace, she a go trace. Hear her now. You think I just MI5 and James Bond and police and soldier over North Island one? When it come to black people, Winston, some police in England got license for kill. Well, nothing Christine said surprise me still. But hear me now. What you mean, Christine? And who tell you that? I must be one idiot. You can't prove that. And who tell me if you go say that? Christine kissed her teeth, then she cut me with her yay and she said, you want proof? You can't have Satan McCurbin about him asphyxiation. And you can't have Stry Garden about her suffocation. You can't ask Colin Roach if him really shoot himself. And you can't ask Vincent Graham if he's him stab himself. But you can ask the commissioner about the license for kill. Ask Sir Paul Condon about the license for kill. You can't ask the Douglas them about the new style baton. And you can't ask Tony Hassan about him dead by neglect. You can't ask Marlon Downs if him have any regret. And you can't ask El Gamal about the mystery I'm dead. But you can ask Dame Barbara about the license to kill. Ask the DPP about the license to kill. You can't ask Ibrahim about the CS gas attack. You can't ask Mrs. Jarrett how she get her heart attack. You can't ask Oliver Price about the grip round his neck. And you can't ask Steve Boyce about him dead by neglect. But you can ask the PCA about the license to kill. Ask the ACPO about the license to kill. If you ask Maggie Thatcher about the license to kill. And you can ask John Major about the license to kill. If you ask Michael Howard about the license to kill. And you can ask Jack Straw about the rule of law. If you ask Tony Blair if him is aware or care about the license to kill that plenty police feel them got. Sometimes I think my co-worker crazy. The way Christine would have gone jokey jokey. Then the next time now, I know nonsense dance. The way she wind down the place last Christmas dance. The way she love to talk about conspiracy.
Hâte de connaître la suite des aventures des Mormons telles que racontées par Nestor. J'en profite néanmoins et en m'en excusant de désannoncer ce morceau. Ça s'appelait License Fickill et c'était Listen Kwesi Johnson. Nestor, c'est à toi.
Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité et normalement sans Mormons. Sauf ce soir, où nous avons donc ce livre dont je vous lis un extrait. C'est un livre des articles d'Hippolyte Taine. Et là, c'est une longue recension d'un livre sur les Mormons. Alors, nous en étions donc au moment où les Mormons commencent à être persécutés par les autres États-Uniens. Et ça devient très très violent. Vers la fin, je reprends à ce moment-là le texte de Taine. Vers la fin de juin 1846, les Mormons arrivèrent à Council Bluff, sur les bords du Missouri, et y campèrent sous des cabanes ou sous des tentes. Le scorbut et la fièvre se mirent parmi eux, beaucoup moururent. L'hiver vint et fut horrible. Ils étaient plus de 15 000, hommes, femmes, enfants, dans un pays désert, mal nourris, exténué de fatigue, glacé par le froid, obligé de se creuser des caves dans la terre, entouré d'Indiens, affligé par le souvenir de leur malheur passé et par la pensée de leur misère future. Il chantait pourtant, se donnait des concerts, fondait un journal et remerciait Dieu de leur délivrance. Au printemps, Brigham Young, ça va devenir le grand chef des Mormons, partit avec 143 hommes pour chercher la patrie promise, et au bout de 3 mois, arriva au grand lac Salé, ayant traversé 400 lieues de terre inhabitée. Il choisit un emplacement, traça le plan des rues, laboura la terre, planta le froment et revint au camp. Les Mormons se mirent alors en marche par grandes troupes sur la voie frayée. Le 1er mai 1848, le corps principal était en route. À l'arrivée, ils manquèrent mourir de faim, les sauterelles mangeaient leur récolte. Pour attendre la moisson suivante, il fallut se rationner. Et pendant 6 mois, chaque personne n'eut que 12 onces de blé par jour. Beaucoup d'émigrants se dispersèrent dans les campagnes, grattant la terre pour avoir des racines et disputant aux Indiens les oignons sauvages. Le froid devint glacial. Il y avait partout 3 pieds de neige. Un grand nombre de Mormons n'avaient ni toit ni feu. Le bois manquait, les montagnes étaient nues. On ne trouvait pas d'eau douce. La plupart des plaines étaient couvertes de sel ou d'alcali, impropres au pâturage et à la culture. Le pays était désert et semblait hostile à la végétation et à la vie. Les rares trappeurs qui, par hasard, l'avaient visité, affirmaient que toute colonie nombreuse y mourrait de faim. Les sauterelles et la sécheresse détruisaient ou menaçaient presque chaque année la moisson. Par surcroît, les sauvages attaquaient les Mormons, tuaient les hommes isolés, volaient le bétail. Voilà les difficultés qu'ils ont vaincues. Depuis l'exode des Israélites, il n'y a point d'exemple d'une si grande émigration religieuse exécutée à travers de tels espaces, en dépit de tels obstacles, par un pareil nombre d'hommes, avec tant d'ordre, d'obéissance, de courage, de patience et de dévouement. Sans doute, le sang-froid, l'énergie, l'aptitude à la vie de squatteur et de planteur, toutes les qualités américaines y ont aidé. Mais le ressort de cette grande volonté a été la foi. Sans elle, des hommes n'eussent point fait de telles choses. Ces exilés croyaient fonder la cité de Dieu, la métropole du genre humain. Ils se considéraient comme les rénovateurs du monde. Souvenons-nous de notre jeunesse. Et avec quelle force une idée, même médiocre, par cela seule qu'elle nous paraissait bonne et vraie, nous lançait en avant, en dépit de l'égoïsme naturel, des faiblesses journalières, des habitudes contractées, des préjugés environnants, des obstacles accumulés. Nous ne savons pas ce dont nous sommes capables. Tel bourgeois qui se chauffe en robe de chambre, occupé à ne rien faire et à tout craindre, sursautera si l'on touche une certaine fibre, et sans y penser, sera un héros. Le 24 novembre 1847, avant de partir pour l'Utah, Brigham Young avait été proclamé président de l'Église, prophète, révélateur et voyant. À côté de lui, selon la constitution établie par Joseph Smith, étaient 2 conseillers au-dessous, les 12 apôtres, le conseil des grands prêtres, les 70 chargés d'évangéliser, puis les évêques et tout le clergé inférieur. Quoique les principales de ces dignités fussent à la nomination du peuple, Brigham en était le maître. Jamais on ne nommait que les candidats qu'il avait présentés. Le Congrès fédéral, l'ayant choisi comme gouverneur du nouveau territoire, là, Hippolyte Taine dit bien que donc c'est le Congrès à Washington, c'est le Congrès états-unien, l'ayant choisi comme gouverneur du nouveau territoire, il eut la puissance civile avec la puissance religieuse. Il se trouvait prince et pape, et l'admiration publique centuplait son autorité officielle. Brigham Young est au niveau de son peuple par ses facultés, ses défauts, son éducation et ses goûts. Il est pieux, souvent inspiré, il a eu le don des langues, il a été missionnaire. Il a osé, pendant la vie de Joseph Smith, les actions d'un enthousiaste et d'un fanatique. Il a été charpentier, il est fort ignorant. Il méprise les sciences et dit qu'un quart d'heure de révélation en apprend plus que toutes les bibliothèques. Il est homme pratique et a gagné 2 millions dans des spéculations personnelles. Il est prédicateur, tour à tour bouffon et sérieux, fort expert dans ce style bizarre, empoulé, décousu et affirmatif, qui plaît tant aux gens des États-Unis. Il est architecte, négociateur, agriculteur, industriel, militaire, juste autant et aussi peu qu'il faut l'être pour la pratique. Voilà les deux ressorts de cette théocratie. La nouveauté d'une foi jeune et le gouvernement d'un homme supérieur. Mais ils ont été plus loin. Après avoir transformé la pensée et la foi, le sol et l'État, ils ont touché à la famille. Déjà, Joseph Smith avait pratiqué et prêché la polygamie. Mais la chose était si énorme qu'on avait dû garder un peu de mesure et prendre quelques précautions. Une fois dans l'Utah, séparé de toute société humaine par 400 lieues de désert, Brigham Young promulgua la révélation nouvelle. C'est un point de leur croyance que dans le monde à venir, chaque homme régnera sur ses enfants qui feront son royaume. Que plus il aura d'enfants, plus il aura de gloire, et que s'il n'a ni femme ni enfant sur la terre, il n'aura pas de gloire dans le ciel. De plus, les Mormons, étant les élus d'en haut, doivent augmenter le plus possible le peuple du Seigneur. On reconnaît là une restauration du vieux principe musulman. La paternité transformée en souveraineté, les enfants en propriété, la génération en œuvre pie, les sentiments naturels en passions ambitieuses, les sentiments humains en passions religieuses, bref, la théocratie introduite au foyer domestique. En 1858, 3600 Mormons avaient plusieurs femmes. 2200 en avaient 4 et au-dessus. Brigham Young, seul, en avait 17. Ceux qui, pouvant être polygames, ne l'étaient pas, étaient médiocrement considérés et passaient pour des gens de peu de foi. Sans doute, un état de choses aussi peu naturel produit beaucoup de douleurs privées, mais ces douleurs sont atténuées parce que c'est volontairement que les femmes ainsi sacrifiées se sacrifient. Il est admis chez les Mormons que les femmes... Il est admis chez les Mormons que le mari, s'il est saint, sauve sa femme avec lui. Plus il est réputé saint et plus il a de femmes, plus elle est sûre d'être sauvée. C'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes filles convoiter la main de vieux polygames, que le nombre de leurs ans et de leurs femmes confirme dans la foi et prédestine au salut. D'autres fois, la femme unique d'un homme riche, afin de lui assurer un plus grand royaume céleste, le supplie de contracter de nouveaux mariages, fait pour lui la cour aux jeunes filles et pleure sincèrement quand elle ne peut obtenir leur main. Toutes les saintes de l'Utah, que M. Rémy, je rappelle que M. Rémy, c'est l'auteur du livre que Hippolyte Taine résume, toutes les saintes de l'Utah que M. Rémy a interrogées lui ont déclaré qu'elles étaient heureuses. « Nous ne savons pas, disent-elles, ce que vous entendez par « rival ». Plus il y a d'épouses, plus c'est agréable. » Une autre, femme d'un évêque qui avait 8 femmes, défendit doctement la polygamie pour des raisons médicales, par l'exemple des patriarches. Alors les patriarches, je rappelle dans la Bible, ils ont des femmes en long, en large et en travers. Et aussi par l'exemple de Jésus-Christ, qui, selon les Mormons, a eu 3 femmes. Oui, 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 Nicolas, ne fais pas cette tête, Jésus-Christ, selon les Mormons, a eu 3 femmes. L'évêque, son mari, avait 25 enfants, et tout ce petit monde vivait en bonne harmonie. Le fanatisme explique tout parce qu'il suffit à tout. We'll be right back.
Just Like Heaven, The Cure. Et nous retrouvons Jean-Manuel qui nous parle des Mormons, même si peut-être ce n'est pas une sinécure.
Ça n'est pas une sinécure du tout que d'être un Mormon, voire également d'en parler. Alors nous sommes donc toujours dans le Proton se rebiffe, et nous continuons donc à lire des extraits du long article que Hippolyte Taine, dans le journal des débats en 1861, a consacré à un livre d'un homme qui était allé voir les Mormons, qui était alors une secte toute nouvelle, mais en pleine expansion. Et juste avant la pause musicale, nous parlions du fait que les Mormons avaient décidé d'être polygames et pensaient que plus on avait d'épouses, plus on avait d'enfants, et plus on serait un saint glorieux. Et donc je reprends maintenant ce que dit Hippolyte Taine. Le fanatisme explique tout, parce qu'il suffit à tout. Il a fondé ici des vertus chrétiennes parmi des institutions orientales et purifié des mœurs que la loi semblait devoir dépraver. Après 10 ans de voyage sur tous les points du globe, dit M. Rémy, donc l'auteur du livre résumé par Hippolyte Taine, je doute qu'il y ait un pays où les femmes soient en général plus vertueuses et plus morales que dans la société mormone. La prostitution y est inconnue, l'adultère si rare qu'on peut dire qu'il n'existe pas. Tous les hommes y sont occupés de travaux utiles. Nous n'y avons vu ni paresseux, ni désœuvrés, ni joueurs, ni ivrognes. Les saints polygames nous ont, presque sans exception, offert l'image de bons pères et de bons époux. En 1855, il n'y avait que 3 détenus dans la prison pénitentiaire, tous les 3 indiens. La nouvelle société vit honorablement et pacifiquement, en dépit de sa propre forme, et il n'y a rien qui prouve mieux la force et la sincérité de sa foi. Le simple dehors des objets physiques en fournit un autre témoignage, plus éclatant encore. Il a fallu tout créer dans ce désert, et ils ont tout créé. Les Mormons, dit un de leurs apostats, sont les plus laborieux des hommes. Depuis le simple fidèle jusqu'à l'évêque et l'apôtre, tous sont occupés à des travaux manuels. Taine reprend. Les plaines n'avaient point d'eau douce, et le climat manquait de pluie au moment des semailles. Ils ont amené l'eau des montagnes dans des rigoles. Le pays ne produisait rien d'utile à la vie. Ils y ont introduit le bétail, les arbres fruitiers, les légumes, les céréales, la betterave, la canne à sucre et le coton. La contrée était un lieu de chasse où jeûnaient quelques sauvages. Au bout de 7 ans, on y voyait des scieries mécaniques, des moulins pour le blé, pour le sucre, des tanneries, des machines à carder, des fonderies pour le fer, pour le bronze, le plomb, des poteries, des fabriques de papier, de draps, de tapis, d'armes, des distilleries. Bref, toutes les manufactures de première nécessité. Je note en passant que Hippolyte Taine considère que les armes et les distilleries, c'est de première nécessité. Glissons. Une ville s'était élevée, ayant des rues larges de 40 mètres. Un palais de justice, une bibliothèque, un hôtel de ville, plusieurs maisons particulières aussi grandes et aussi belles que des palais, un vaste temple en construction. J'interromps à nouveau. L'architecture mormone est caractérisée par, effectivement, une taille considérable. Qu'elle soit caractérisée par une beauté considérable est un point que je ne me hasarderai pas à avancer. Vous pouvez aller regarder sur Internet l'allure des temples mormons. Taine reprend. En 1859, il y avait 80 000 mormons dans l'Utah et probablement 100 000 autres dans le reste de l'Amérique et du monde. Songez que 30 ans auparavant, la nouvelle religion n'avait que 6 adeptes. Tous les jours, la propagande accroissait cette multitude. Sur ce point, le dévouement des Mormons est extraordinaire. Un ordre du Grand Conseil arrive. À l'instant, le Mormon désigné quitte sa famille, ses travaux commencés, et part, sans argent, pour l'Europe, la Chine ou l'Océanie. Il vit du travail de ses mains, paye comme il peut son passage, se fait domestique. L'un d'eux, M. Bolton, fils d'un riche armateur, fut 8 ans missionnaire à Paris, ne gagnant le plus souvent que 10 francs par mois. Ordinairement, la mission dure de 3 à 6 ans. Ils ne reviennent que sur un ordre du Grand Conseil et à leurs frais. Ils s'adressent aux pauvres, aux ignorants, vivent avec eux, reviennent à la charge, les exaltent par des histoires merveilleuses et par des promesses magnifiques. L'enthousiasme engendre l'enthousiasme. Les convertis ont des songes prophétiques, entendent des bruits doux ou terribles, voient des spectres éblouissants, des bêtes de l'Apocalypse, assistent à des guérisons de malades et bientôt partent pour l'Utah. Une banque de secours a été établie en 1849 pour leur fournir l'argent du voyage. Tous les fidèles y ont contribué. Et les convertis, une fois arrivés, remboursent les avances qu'on leur a faites. Les mesures ont été si bien prises que le voyage de Liverpool au Grand Lac Salé ne coûte pas plus de 500 francs, et souvent moins de 250. Dans ces dernières années, beaucoup d'émigrants ont traversé à pied les 400 lieues de désert, traînant sur des brouettes ou sur des charrettes à bras leurs bagages, leurs vivres, et même leurs enfants. 30 000 personnes, en 20 ans, sont venues accroître la population de l'Utah. Cette singulière société subsistera-t-elle? Les détails qu'on vient de lire indiquent, je crois, que trois choses la maintiennent. Son isolement, la nouveauté de son enthousiasme et l'habileté de son chef. Or, Brigham Young mourra. Je rappelle que ce texte est écrit en 1861. Et on trouvera difficilement une suite de chefs aussi bien doués et adaptés à leur rôle. D'autre part, l'enthousiasme vieillira. Et si l'on regarde les religions précédentes, on n'en trouve guère dont la foi vive et la ferveur pieuse aient duré plus de 100 ans. Enfin, les déserts se peupleront, et la civilisation ordinaire rejoindra et enveloppera ce petit monde. Il est probable qu'alors ces vices intimes feront leur effet. Et l'on a de la peine à croire qu'une société fondée sur l'ignorance du public, sur l'asservissement des sujets et sur l'abaissement des femmes, puisse durer quand son fanatisme se sera refroidi, quand son chef sera un homme ordinaire, et quand la civilisation environnante l'attaquera par la contagion de la science solide et profonde, de la liberté civile et religieuse, du mariage égal et naturel. En attendant, on peut remercier les Mormons de la périlleuse expérience qu'ils veulent bien faire à leurs dépens et à notre profit. Rien n'est plus utile à l'histoire que de grandes opérations exécutées sur des milliers d'hommes pendant de longues années sous nos yeux, en des circonstances précises et connues. Celle-ci, faite en un endroit isolé et pour ainsi dire dans un vase clos, sera une des plus nettes et des plus instructives. Il faut laisser le mélange fermenter. On en verra le produit dans un siècle. Déjà maintenant, une conclusion surnage. Nous jugions notre siècle à peu près comme les beaux esprits romains jugeaient leur siècle au temps d'Auguste. Nous le trouvions réfléchi, savant, raisonnable et même sceptique. Nous avons cru avoir endormi, apaisé ou dompté le monstre intérieur et tout-puissant, l'imagination, crédule et enthousiaste. Nous pensons avoir enseveli sous un amas de raisonnements, de documents positifs, de sciences transmises, d'éducation protégée, de journaux populaires, le fou que tout homme porte en lui-même. Nous nous étions trompés. Voilà une civilisation d'hommes d'affaires, tout orgueilleuse de son bon sens pratique, assise sur 3 siècles de sciences prouvées, mais son protestantisme libre laissait une ouverture, et tout d'un coup, par cette ouverture, on a vu se lâcher le fou.
Oh, please, don't you rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my boat.
Oh, please, don't you rock my boat.
Don't
no,
rock
no.
My boat.
Cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my
I'm
boat.
I'm telling you that, oh, 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 I like I'm happy inside.
C'est évidemment Bob Marley, Satisfy My Soul. J'espère que Jean-Manuel a satisfait votre âme avec cette évocation des Mormons.
Donc c'était effectivement une lecture de l'excellent article, très long article, il y a 25 pages, dans le journal des débats de 1861 que Hippolyte Taine avait consacré à un livre sur les Mormons. Et il a donc décrit avec une très grande justesse l'histoire des Mormons et en particulier le côté profondément ridicule de cette pseudo-révélation. J'espère donc que cela vous a amusé. Nous nous retrouvons le lundi 1er janvier, où j'espère que personne n'y trouvera une quelconque provocation, mais Nicolas, que je vois là dans la régie, me tend ses mains comme si j'allais y poser une paire de menottes. Car l'émission Les Muses s'amusent du 1er janvier à 21h sera consacrée à la visite que Nicolas et moi-même avons effectuée au musée de la police. Le musée de la police qui se situe dans le commissariat central du 5e arrondissement. Nous devons confesser que nous n'avons pas demandé l'autorisation au musée de la police de venir enregistrer une émission pour Radio Libertaire, et donc c'était un petit peu délicat. Nous avons été contraints d'enregistrer à voix très très basse, donc nous avons finalement réenregistré l'émission un peu plus tard. Mais il y aura un extrait où nous avons gardé à la fois les fantaisies phoniques qui ont été commises par nos appareils enregistreurs et le ton de voix très discret que nous étions obligés de conserver, car c'est un musée qui est minuscule et on peut aisément entendre tout ce que les visiteurs disent. Mais enfin, ça nous a paru amusant de commencer l'année 2024, que je vous souhaite et que Nicolas vous souhaite excellente, par une émission sur le musée de la police et de la terminer par une émission sur les Mormons. Eh bien, en tout cas, bonne soirée et très bonne année 2024 quand elle arrivera.
pour nous quitter, puisque la fin de l'année effectivement pointe le bout de son nez, qu'arrive le temps des souhaits et des vœux pour l'année qui vient, eh bien je vous invite à écouter ce que vous formule une fabuleuse chanteuse qui s'appelle Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders, et ça s'appelle Forever Young.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every limb. May you stay the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young.
opium florissant jusqu'au township humiliant qui a vécu sur cette terre. Je survole serein les anciennes frontières des Africanaires. Je survole serein les anciennes frontières des Africanaires. Je ne suis plus ce nègre là-bas. Je suis l'homme, gazelle, éléphant, vrai homme décent et vrai homme volant. Plus de passe, ni de fouet, ni nègre, ni blanc. Quand je veux, je vois femme et enfant. Le veld fleurit du sang des martyrs et toutes les tribus dansent ensemble.
Tamina Boutana, bouche malaise, Boutana, Boutana.
Je survole serein les anciennes frontières des Africanaires. Anciennes frontières des Africanaires.
désert loin d'un vieux continent, le cœur découvert de sentiments. Oh, 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 marabout de vaudou et piment. Oh, 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 des tonnes de gaz d'échappement. Dans les rues s'indiffèrent les pratiques, en foutant de plastique et de bière ces gens. Oh, 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 marabout de vaudou et argent. Mosquée, église, sacrifice, rite et sang. Hey yo, 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 hey
yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Au chant des envoûtés, j'ai prêté mon oreille. Au congrès d'un pays effleuré, je porte un songe, je glisse ma cadence. Il est l'aube sur un cadran d'Afrique, les tambours brûlés sont allés de prière, la fanfare est cuivrée, le reste est à demain.
Radio Libertaire 89.4.
Bal des pendus. Au gibet noir, manchot d'aimable, danse, danse les paladins, le maigre paladin du diable, les squelettes de Saladin. chibé noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes, le saladin. Premier couplet, on y verra Belzébuth en personne, danser au milieu de ses chers petits bambins.
Monsieur Belzébuth, tire par la cravate, ses petits pantins noirs, grimaçant sur le ciel, et leur claquant au front, un revers de sabbat.
Les fées dansent, danser au son d'un vieux Noël,
et les pantins choqués, enlacent leurs bras grêles, comme des orgues noirs, les poitrines à jour, que serraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement, dans un hideux amour. Les gays danseurs qui n'avaient plus de pont sont plus cabriolés. Les tritons sont si longs qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Mais le début enragé rage et rage de ses filles alors.
Au chef et noir, un chou aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins, les diables, le squelette, le saladin. Au chef et noir, un chou aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins, les diables, le squelette, le saladin.
Oh, dur talon, jamais on use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau. Le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées. Avance le chat tremble à leur maigre menton. On dirait tournoyant dans les sombres mêlées. Déploré leur temps, armure de carton. La bise siffle, gromballe les squelettes, gibé énorme gît comme un orgue de fer, les loups répandent dans les forêts violettes, à l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer.
Au chef et noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins, les diables, le squelette, le saladin. Au chef et noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins, les diables, le squelette, le saladin.
Et maintenant, troisième couplet, arme sur l'épaule droite, en avant.
Hola, secouez-moi, ces capitaines funèbres qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés. Un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici, le trépassé.
Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou, emporté par l'élan, comme un cheval se cabre et se sentant encore la corde au raide au cou. Mais ses petits doigts sont sur ce mur qui craque avec des cris pareils et des ricanements. Et comme un baladin rentre dans la baraque, on bondit dans le bal au chant des dossements.
Au chibinois, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins, les diables, les squelettes, le saladin.
Bras dessous, on se tue, on se voue. Bras dessous, sans dessus, dessous. Pour dessous de fleurs, pour dessus de lit, on se prend le cœur quand le cœur nous dit qu'on se couche ici, qu'on se couche ailleurs. Tu es plus jolie sans papier à fleurs, qu'on se touche ici, qu'on se touche ailleurs. De la bouche au lit, on se serre par cœur. Bras dessous, on se tue, on se voue. Bras dessous, sans dessus, dessous. Si tu étais fleur au jardin l'été, je serais flâneur, banc ou jardinier. Si tu étais sœur au cloître inconsolé, je serais le Seigneur, son fils ou un abbé. Si tu étais guillotine à la santé, je prierais ces messieurs de bien me condamner. Bras dessous, on se tue, on se voue. Bras dessous, sans dessus, dessous. Et que vienne l'heure de nous séparer, on se donne une heure, tout est pardonné. Et que vienne l'heure
pleure pour moi de pleurer. Si je pleure pour toi, je serai satisfait. Et que vienne l'heure de ta tombe fleurie, à la première fleur, je choisis de mourir. Bras dessus, bras dessous, on se tue, on se voue. Bras dessus, bras dessous, sans dessus, dessous.
Je m'élève contre les petits rois, les seigneurs. Je défendais mes potes à l'école, je la ramenais déjà un peu trop pendant que je faisais mes heures de colle. C'était tous fourrés au bistrot.
premier sur sa liste. J'aurais pu marier avec elle. Peut-être que c'était qu'une égoïste, mais putain qu'est-ce qu'elle était belle. J'aidais pas à ses petits caprices, je lui disais ses quatre vérités. Un jour elle m'a rayé de sa liste. Et là c'est vrai que j'en ai bavé. Tais-toi, tais-toi, c'est ce que me disait ma mère. Mets-moi, mets-moi, je l'écoutais pas toujours. Tais-toi, tais-toi, t'en as un caractère. Tant mieux pour moi, et tant pis pour l'amour. J'aimais bien ce boulot, c'est dommage. J'aurais vite fait de bien gagner ma vie. Ah ça, j'ai du courage. Et pas uniquement pour parler, mais le petit chef sur son échelle, avec ses beaux cheveux bien rangés, aimait pas mon côté rebelle. Il a fini par me virer. Eh ouais. J'en ai croisé dans la musique des producteurs dans des costards qui me disaient Coco c'est magique, on va faire de toi une vraie star. Mais faudrait changer les paroles, c'est un peu triste, c'est un peu noir. Je voulais pas devenir un guignol. Et je leur ai dit d'aller se faire voir.
Et pas ça.
Tais-toi, tais-toi, c'est ce que me disait ma mère. Mets-moi, mets-moi, je l'écoutais pas toujours. Tais-toi, tais-toi, tu feras jamais carrière. Tant pis pour moi, et tant mieux pour l'amour. Quand j'irai voir au bout de la route, s'il y a un bon Dieu qui m'attend, y a intérêt à ce qu'il m'écoute, qu'il vienne pas me dire qu'il a pas le temps. Je lui dirai que c'était pas terrible le boulot qu'il a fait sur terre. Même si je dois passer, c'est possible, le reste de ma mort en enfer. Hey, hey. J'ai jamais su tenir ma langue, c'est vrai maman t'avais raison. Dans cette société qui tangue entre le fric et l'ambition, si tu veux être premier de la classe, avoir un jour le premier prix, il faut en cirer des codasses. Et pas se mettre à dos le jury. Hey! Tais-toi, tais-toi, c'est ce que me disait ma mère. Tais-toi, tais-toi, ou ça te joue.